là-bas absolument rien compris à ce qu'on a lu. C'est-à-dire que si la lecture de tous ces textes est bien entendu une condition nécessaire, elle n'est pas une condition suffisante. Et sous l'effort d'un certain nombre de maîtres d'aujourd'hui, dont en particulier Rav Ashkenazi, qui est un de mes maîtres et qui a été également l'élève de Jacob Jordan, de Rami Brafa, tout l'effort a consisté à réapprendre à lire la Bible avec les saints d'Israël. Je ne suis pas de loin Léon Ashkenazi, et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant justement d'essayer de montrer ce qu'on peut faire si on se donne du mal, mais quand on se donne du mal honnêtement, c'est-à-dire en essayant de lire avec les saints d'Israël, c'est-à-dire à lire avec le texte. Et l'occasion m'en a été donnée justement par ce séminaire sur le pharisianisme. En effet, on aurait pu faire le pharisianisme, considérer ça comme un sujet historique, c'est-à-dire archéologique du pharisianisme. Après tout, c'est un événement qui se situe du 2e siècle avant l'ère chrétienne, du 2e siècle de notre ère, et par conséquent, on peut se demander à quoi sert aujourd'hui, où il y a des sujets de préoccupation beaucoup plus urgents et plus importants pour la conscience juive contemporaine, de se penser là-dessus, si le problème en réalité n'était pas un problème beaucoup plus vaste, et si aujourd'hui ce problème n'était pas peut-être aussi actuel qu'il l'était à l'époque où le terme et la réalité du pharisianisme a émergé. S'il s'agit d'un problème permanent, dont le pharisianisme ne serait qu'un avatar, par conséquent, il y a différents points de vue de ce problème que l'on peut essayer d'analyser. Alors, le choix se posait pour le texte, soit étudier le texte sur le pharisianisme, le texte dans lequel, dans le carnet, par exemple, pharisien d'ici, avec ceux qui s'opposaient avec les sadducéens, ou alors de voir un petit peu qu'est-ce qui était le caractère propre du pharisianisme. Et le pharisianisme est une orientation du judaïsme. Le pharisianisme, c'est même, on pourrait dire, l'orientation traditionnelle, l'orientation type du judaïsme. C'est le choix, je pense que ce qui sera mis en évidence par les conférences qui vont se donner toute la semaine, le pharisianisme, c'est le choix qui a traversé l'histoire en confrontation éventuelle avec d'autres orientations marginales ou hérétiques. Dans ce sens, nous pouvons dire que nous, l'Israël d'aujourd'hui, fidèle à ce qui fait sa raison d'être, nous sommes les défenseurs des pharisiens. Nous sommes des pharisiens. Certains d'entre vous m'ont dit, parfois, au cours de conférences ou de débats, interpellés un orateur avec lequel je n'étais pas d'accord en disant « En tant que pharisien du XXe siècle, je… » etc. Or, en quoi consistait l'opposition fondamentale entre les pharisiens et ceux avec qui il y avait conflit, essentiellement les sadducéens? Eh bien, la confrontation porte essentiellement sur la relation à la Torah orale, à la loi orale. Et en effet, on distingue deux choses, et nous aurons continuellement à en parler. Il faut distinguer donc la… qu'on appelle Torah, c'est-à-dire Torah, Torah c'est le Sav, et Torah c'est Balté, la loi écrite et la loi orale. Ces deux choses, loi orale et loi écrite, forment apparemment un tout, mais ils sont quand même distingués. Et la Torah orale, elle, a été révélé au Sinaï en même temps que la Torah écrite à Moïse. Par conséquent, la contestation des Sadducéens contre les Pharisiens qui n'acceptaient pas la Torah orale portait sur deux points. Elle portait sur la Torah orale, donc ils ne reconnaissaient pas la validité, mais la contestation portait également sur Moïse, puisque c'est par l'intermédiaire de Moïse et de ses élèves que passe la Torah orale. Moïse, qui a mis par écrit la Torah écrite et la Torah écrite et maintenant dans le domaine public, puisque aussi bien les juifs que les non-juifs peuvent la lire, elle existe dans un écrit qui est fixé. Et d'autre part, Moïse, qui a transmis oralement la Torah orale, et cette transmission est une chaîne ininterrompue de maître à élève, en passant par Josué, les anciens, les gens de la Grande Assemblée et les sages, et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. J'ai donc pensé que l'on pouvait essayer ensemble de prendre quelques textes qui précisent le rapport d'Israël à la loi, et en particulier à la loi orale, au moment où ce problème se présente historiquement pour la première fois, c'est-à-dire au moment de la révélation. Alors bien sûr, quand on parle de Torah, quand on parle de révélation, il faut quand même un tout petit peu essayer de penser qu'on ne parle pas de Torah ou de révélation comme on parlerait même de Einstein ou de Freud et de la découverte de la psychanalyse ou de la relativité ou de la physique des quantas. Parler de Torah, c'est-à-dire de révélation, parler de Dieu, parler de Sinaï, il faut faire un petit effort pour essayer de se rendre compte de quoi il s'agit. Donc, nous verrons ça dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Torah? De quoi s'agit-il vraiment? Lorsque je dis apprendre à lire les textes avec les sages d'Israël, je me place donc d'emblée dans la perspective pharisienne. Par le choix même que je fais de ma lecture de la Torah écrite par la Torah orale, c'est donc le choix qui est celui d'Israël, tel que je l'ai dit tout à l'heure. La Torah écrite, Torah Shebirtav, contient un enseignement impliqué dans le texte. La Torah orale, Torah Shebalpé, mot à mot, Torah Shebirtav, Torah qui est en écrit, l'écrit, Torah Shebalpé, c'est ici, Torah qui est dans ce qui est sur la bouche, Alpé. Et vous verrez dans le texte que nous étudierons, j'espère demain, de Tanhuma, l'importance de l'étymologie de ce terme qui est dans, sur la bouche. Donc la Torah écrite, c'est l'enseignement impliqué dans le texte. La Torah Shebalpé, c'est l'enseignement expliqué dans le dit. Tel qu'il s'est trouvé par la suite, ni par écrit, mais pour des raisons contingentes, comme vous le savez, dans le Talmud, mais volontairement, de façon occultée, parce que ça ne devait pas être mis par écrit, et donc s'il fallait le mettre pour des raisons de persécution ou autre, ça a été par écrit de façon telle que ça ne puisse être compris que par ceux qui savent le lire, c'est-à-dire, j'allais dire les pharisiens, c'est-à-dire simplement les juifs qui, de maître à élève, ont le sens du décodage, c'est mis par écrit donc dans le Talmud et dans le Midrash. Mais la Torah orale, c'est aussi le décodage du sens de l'écrit et du dit par les sages. C'est-à-dire soit les commentaires rédigés par les sages depuis la clôture du Talmud et jusqu'aujourd'hui, soit, et c'est peut-être, j'allais dire à la limite, encore plus important, l'explication ou l'explicitation dans l'enseignement oral du maître des textes. Et c'est pourquoi vous me verrez citer, j'allais dire indifféremment, bien sûr, pas indifféremment, au point de vue respect que l'on doit aux gens. Mais on verrait citer successivement aussi bien un texte de Gemara, un texte de Midrash, un commentaire de Rashi, un commentaire du Maharal, que Jacob Gordon de Rebracha, que mon maître Rav Rosenberg, ou que Rav Ashkenazi. Des gens avec qui j'ai étudié, avec qui je continue à étudier la transmission du sens de ceux qui l'ont reçu de leur propre maître. Voilà dans quel esprit je pense étudier donc avec vous ce texte. Alors, évidemment, quelles sont les limites de l'étude et quelles sont les exigences? Exigences d'abord, effectivement, étudier la Torah, c'est sérieux. Certains de vous connaissez cette blague qui se passe dans un avion qui va de Paris à Tel Aviv, et il y a dans cet avion un homme qui a l'air extrêmement sympathique et qui a l'air extrêmement intéressé, très passionné par ce voyage. Et puis il y a un couple de vieux juifs qui sont là et il y a une conversation. Et le couple qui voit que ce monsieur a envie de bavarder, il leur dit, vous allez en Israël? Oui, je vais en Israël, ça fait 30 ans. Et vous allez souvent, en moment, dit le monsieur, je viens pour la première fois. Et vous, dit-il au couple, ben nous, c'est notre 20e voyage, on y va à peu près deux fois par an. Ah, c'est pour la première fois que vous allez en Israël, dit le couple, oui, et pourquoi allez-vous là-bas? C'est pas difficile, je décide d'écrire un livre sur Israël, parce que vraiment je trouve ça formidable, je vais faire un bouquin de 1000 pages sur Israël. Ah bon, et combien de temps voulez-vous rester en Israël? 3 jours. 3 jours? Et comment s'appellera votre livre? Pas difficile. Mon livre s'appellera Israël, hier, aujourd'hui, demain. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien évident. Et quand on étudie la Torah, il faut quand même faire un effort, et ce n'est pas simplement en survolant, comme on le voit faire trop souvent les textes, en un quart d'heure, et en réfléchissant un petit peu, qu'on y arrive. Mais les limites, eh bien les limites, il y en a également plusieurs. Vous connaissez aussi, avant d'attaquer le texte, une petite blague, il y a parmi les jeunes, en dehors de Yom Kippour, que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de Yom Kippour, il y a aussi donc un petit jeune qui se trouve lendemain de Rosh Hashanah, il s'appelle Tom Gedalia, le jeune de Gedalia, parce que, en souvenir de Gedalia, qui était le gouverneur de la Judée, après l'exécution du premier temps, qui a été assassiné, et qui a mis fin, j'allais dire, au reste d'autonomie interne qu'avait la Judée sous l'occupation babylonienne. Et alors, donc, il y a un jeune religieux institué, et... Non, babylonien. Et alors, on demande à un juif qui n'a pas jeûné de son Gedalia. Pourquoi? Parce que tu ne jeûnes pas son Gedalia. Scandale, ça. Un juif qui respecte la Torah doit jeûner de son Gedalia. Il dit, il y a pour trois raisons. La première, un événement qui s'est passé il y a 2600 ans, vous savez, je jeûne aujourd'hui. La deuxième raison, si Chas v'Shalom, j'avais été assassiné, moi, et que Gedalia rejeûnait pour moi. Troisième raison, je ne jeûne pas Yom Kippour, vous voyez que je jeûne le jour de Gedalia. Alors je vous dirai, moi aussi, n'est-ce pas, je peux vous dire qu'il y a trois raisons pour lesquelles cette étude est quand même limitée. La première, c'est bien entendu que le séminaire a une durée de quelques jours seulement. La deuxième, c'est que il fallait bien faire un choix de texte. Et la troisième, c'est que je suis parfaitement incapable de faire une étude exhaustive et approfondie de ce thème. Peut-être j'en serai capable dans 20 ans, merci Hachem, mais pour l'instant, je me contenterai de ce que je peux. Alors nous attaquons directement le texte que j'ai choisi. Vous avez donc une feuille de papier de laquelle je vous ai fait un montage pour que nous situions le problème. Les deux pages de droite sont un extrait de l'Exode dans Jethro et la page de gauche est un extrait toujours dans l'Exode mais du chapitre 23 et 24 dans Mishpatim. Comment va se présenter la révélation? Dans la page de droite, je vous ai souligné un verset. Vaishlar Moshe et Sroshenot va Yelerlo El Arso. Moïse renvoie Jethro. Retenez ça parce que nous en aurons besoin le jeudi, le dernier jour. Moïse renvoie Jethro, et c'est à ce moment-là que commence le récit de la préparation des Béné Israël, des Juifs, qui vont se préparer à recevoir la révélation de la Torah au Sinaï. Et alors, le texte, vous pouvez l'emporter, vous pouvez le lire, vous pouvez lire en traduction française, la préparation, et à un moment donné, lorsque le dialogue préparatif de cette révélation entre Moïse et Dieu, et que Moïse monte au Sinaï, et que Dieu lui donne des instructions, comment il faut faire pour préparer, c'est une discussion importante, et à un moment donné, lorsque Moïse rapporte les paroles de Dieu à Israël, qu'est-ce qu'Israël répond? C'est la deuxième chose que j'ai soulignée. « Kol Asher Diber Hashem Naaseh »« Tout ce que a dit le Seigneur, nous ferons. » Et puis, il se passe que cette préparation continue. Et alors, je vous demande là de passer à la page de gauche. Parce qu'il y a un passage, c'est le début du chapitre 24, Kaf Dalet, qui se trouve donc plus loin dans la Torah, et pour lequel il y a une discussion dans le Midrash Mefilta, pour savoir si ce récit, qui se trouve situé dans la Torah, à un autre endroit, est la reprise de ce qui s'est passé avant la révélation de la Torah, ou si ça s'est situé après. Il y a une discussion entre Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, Rabbi Hassim, et vous verrez que je me suis placé avec la majorité des commentateurs que nous sommes amenés à étudier, dans la perspective la plus difficile pour notre sujet, celle dans laquelle le dialogue qui est cité dans ce passage a eu lieu avant la révélation. Et nous verrons d'ailleurs, j'espère que nous aurons le temps, pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passerait si on admettait que ce dialogue a eu lieu après. Prenons donc d'abord, comme je vous l'ai dit, je vous prends un texte limité, avec des moyens limités, mais j'essaye, très honnêtement, de absolument pas cacher aucune des difficultés qui se présentent dans l'étude du texte. Ce n'est pas un travail tout mâché, c'est ensemble, nous allons lire, et ensemble, d'essayer de voir les problèmes et les solutions, si possible. Et bien là, il se passe une chose très importante, c'est que là aussi, dans le dialogue donc, avec Moïse et Israël, vous avez une première phrase qui est soulignée. De nouveau, les Juifs disent à Yomrou, « Kol adevorim asher diber Hashem naaseh » toutes les paroles que parlera le Seigneur nous feront, et surtout, phrase qu'il faudra apprendre par cœur, parce que nous serons amenés à nous colter tout au long de ces trois journées avec cette phrase qui va engendrer une grande partie des difficultés, c'est que finalement, lorsque Moïse fait l'alliance avec Israël, l'alliance qui est décrite dans les versets entre les deux choses que j'ai soulignées, et lorsque le dernier mot souligné, le verset commence, Vaïkar, Sefer Habrit, Moïse a pris le livre de l'alliance, Vaïkro Bozne Ho'om, et il l'a dit dans les oreilles du peuple, Vaïomrou, et qu'est-ce qu'ils ont dit, ça souligné, Kol Asher Diber Hashem Naase Venishmo. Tout ce que a parlé le Seigneur, Naase Venishmo, nous ferons et nous écouterons. Tout ce que a parlé le Seigneur, Naase Venishmo. Et ce Naase Venishmo va revenir comme un leitmotiv, c'est le grand mérite d'Israël, apparemment. Ils ont dit quoi? Nous ferons d'abord, nous ferons les mitzvot, le mishma, et nous écouterons après. Donc,
une acceptation extraordinaire, hein, apparemment, un stade de dépassement. Israël accepte apparemment, aveuglément, en disant tout ce que Dieu a dit, nous ferons et nous écouterons. Nous revenons donc à notre texte antérieur. Donc la préparation de la révélation se fait, et nous arrivons au verset qui va nous occuper. C'est-à-dire que finalement, eh bien, Moïse amène les Bnei Israël au pied de la montagne, où Dieu va se révéler, d'ailleurs dans la même page que vous avez photocopiée, c'est-à-dire la deuxième page en partant de la droite, n'est-ce pas, vous avez ensuite le début du commandement en bas de page. Mais alors, arrivons donc à ce verset. Donc, pour récapituler, nous avons donc ce verset 17 qui va être l'objet de notre étude. Ce verset 17, le voici. Va yotse Moshe Esohom Likras Oelokim Minamachane. Et Moïse a fait sortir le peuple Likras Oelokim à la rencontre de Dieu Minamachane à partir du camp. Va yisyatsevu de Sartis Oror. Et ce sont ces trois mots qui vont nous occuper pendant 4 jours. Va yisyatsevu de Sartis Oror. Et ils se tinrent debout, mot à mot, dans le dessous de la montagne. Je traduis littéralement. Je répète, et Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu à partir du camp, va ici à ce vous, le Sarkis Horror, et il se tinrent debout en dessous de la montagne. Sur le début du verset, Rashi, c'est une sorte de Midrashim, explique que. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ikras, à la rencontre d'eux? Vous savez, dans la prière de Radodi, c'est le récit de l'histoire, le Radodi, l'ikras kala, vient mon fiancé à la rencontre de la fiancée, Al-Kabet, et effectivement, les Midrashim le disent, chaque fois qu'on dit l'ikras à la rencontre d'eux, ça veut dire que l'un et l'autre se déplacent. Si je fais la rencontre de quelqu'un, c'est que vient ma rencontre. Les Midrashim disent, c'est que Dieu déjà, Dieu s'était déplacé pour venir à la rencontre d'Israël. Dieu a pris la montagne, a pris le Har Sinaï, l'a enlevé, l'a soulevé de son endroit et il est venu à la rencontre d'Israël. Ça veut dire comme un fiancé qui vient faire sa fiancée. Bon, dans un climat tout à fait extraordinaire, voilà que les Hébreux ont dit « Naase venishma », ils sont apparemment fous de joie, Dieu va, ils vont à la rencontre de Dieu, Dieu vient à leur rencontre, ils soulèvent même la montagne, ils s'approchent d'eux, et puis tout d'un coup, Vaïkatsevou, Bessartis Aurore, et il se tint en dessous de la montagne. Alors évidemment, si l'on voulait dire ils étaient au pied de la montagne, il faudrait dire Vaïkatsevou, Paras. D'ailleurs, lorsque Moshe a jeté les tables après le péché du veau d'or, il a jeté Paras Aurore. Là, il y a marqué Bessartis, en dessous d'eux. Il y a là une tournure, évidemment, un peu atypique. Et alors, le Talmud va donc étudier ces trois mots. Vous avez donc votre deuxième seuil. Vous pouvez donc maintenant prendre votre autre feuille. Nous allons commencer l'étude de la Torah orale de la façon. Alors je vous ai mis, pour ceux qui ont l'habitude de lire, je vous ai mis donc une première page, qui est la façon dont se présente normalement une page de Gemara. Pour ceux qui ont la difficulté, je vous ai mis en dessous la même page dans la version ponctuée. Dans la version ponctuée, celle qui est éditée par le Rav Steinzal. Vous savez, on n'aime pas beaucoup les versions ponctuées, parce que la lecture de la Torah, orale, c'est-à-dire qu'il y a une polysémie, et en tout cas une lecture qui peut être différente. Vous savez très bien que les textes ne sont pas ponctués, même la Torah, quand il y a la synagogue, la Torah n'est pas ponctuée. Et la tradition orale non plus. Vous savez, il y a une blague comme ça, c'est entendu, enfin peu importe, ça se passe à Kiev. Il y a le KGB qui fait irruption à Kiev auprès d'un vieux juif, d'un brave vieux juif, jamais fait de politique. Il n'a même pas demandé son visa pour Israël. Il ne s'est jamais marqué par rien. Et le KGB rentre, n'est-ce pas, perquisition. On fouille tout pendant 8 heures. Si on ne trouve rien, on trouve quelques livres en yiddish, qui ne sont pas interdits. On trouve même les œuvres de Staline en yiddish. Enfin, en tout cas, rien de répréhensible. Et on lui dit, mais enfin, vous 8 heures, il ne comprend pas ce qui se passe. On lui dit, bien espion. Espion, vous, espion, espion, espion. Tu as vu les télégrammes? Les télégrammes, voilà. Nous avons trouvé les télégrammes. Le télégramme que ta femme t'a envoyé de Moscou, et le télégramme que tu as envoyé ta femme. Et bien, effectivement, qu'est-ce qui est marqué sur le télégramme? Il est marqué Zot opérirum, opérirum. Et la réponse était Zot opérirum, opérirum. Alors je vais le mettre en français, pour autant qu'on puisse traduire l'idée en français. Dit opérer, Observez. Deuxième télégramme, réponse. Dit. Opérez. Opérez. Alors il dit, écoute, mon vieux, hein, c'est l'espion de Carter, c'est son missionniste. Dis-lui quel est ton code. Ça tourne pas rond. Il dit un code. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Écoutez, si vous me demandez, je vais vous dire la vérité. Ma femme, elle souffre de la vérité. Alors, j'ai envoyé chez le meilleur chirurgien de Moscou. Alors, m'envoie un télégramme. Elle en a dit. Dis opérer. Opérer. Le chirurgien a dit qu'il faut opérer. Est-ce que tu crois que je dois opérer? Alors, j'ai répondu. Dis opérer. Opérer. Si le chirurgien dit qu'il faut opérer, bien, il faut opérer. Vous comprenez pourquoi il est un sexe ponctué? Eh bien, d'emblée, et nous verrons peut-être dans le Tanhuma demain, le Tanhuma est ponctué. Alors, il y a un endroit où il y a deux explications qui sont données par le commentaire lui-même en dessous. Dans l'une, ne colle pas du tout avec la façon dont le texte est écrit et coupé. Mais enfin, il vaut mieux quand même avoir un texte ponctué que rien, donc ceux qui veulent peuvent suivre donc, dans le texte ponctué. Alors, nous allons avoir du vocabulaire, qui n'est pas très difficile malgré tout, les mots que nous allons rencontrer. Nous allons leur faire ce suivant. Nous allons lire et traduire le texte ensemble, une fois, deux fois. Nous verrons Rachid. Et ensuite, nous dialoguerons ce texte, une fois que nous l'avons lu, et que nous comprenons les termes. Que nous sommes capables ensuite, bon, de jongler avec lui en hébreu, c'est un texte qui n'est pas en araméen, donc il est relativement facile du point de vue linguistique. Comment le comprenons-nous? Alors nous essaierons de voir que chacun de vous comprend, et nous verrons ensemble si la lecture que l'on peut en faire comme cela, elle est cohérente, ou si ça pose des difficultés. Je crois que ce sera plus vivant, et à partir de demain, nous verrons comment les sages d'Israël, eux, ont lu le texte, et comment ils ont pu résoudre les difficultés que nous sommes assez grands, je pense pouvoir, au moins certaines d'entre elles. Alors j'ai remis les deux mots parce que nous sommes amenés à ces deux mots à les utiliser. Et que, au fur et à mesure que nous aurons dans notre texte de Gemara les termes que je vais d'ailleurs vous traduire, je les ai marqués là en même temps facilité. Alors, notre Gemara commence comme ça. Vaïslatsevu, le Farsi Torah. Vous avez tous ce texte, c'est là où j'ai souligné que le texte, il y a un endroit. Donc, et ceux qui ont un texte ponctué, c'est là où il y a la flèche à droite, c'est le Beth. Et ceux qui ont un texte non ponctué, c'est ce que j'ai souligné. Vaïslatsevu de Farsi Torah. Ah oui, alors il faut vous expliquer quand même où se situe ce texte de Gemara. Ce texte de Gemara se situe dans le Gemara Shabbat 88a. Après de grandes discussions entre les rabbins pour savoir exactement comment se sont faites les préparations des jours avant le matin de Torah, avant dans la Torah, et pour savoir quel jour c'était exactement. Il y a des grandes discussions, et on arrive ensuite, la dernière phrase est une louange, béni Dieu qui a donné la Torah triple, Torah d'Utovim, au peuple triple, à Moïse, qui est le troisième né, le troisième au troisième mois, une grande louange. Et puis ensuite, il y a notre texte qui arrive. Alors, ben, cherchez-vous le Sarsi Torah. Et ils se tinrent debout dans le dessous de la montagne. Alors, la Gemara commence. Omar, Rav Abdini, Bar Homo, Bar Rosso. Rav Abdini, fils de Homo, fils de Rosso, a dit. Me lamet, chez Kofo, à Kodosh Baruch Hu, à Leyem, es Horor Kedidi. Cela enseigne que le Saint béni soit-il a retourné, Kofo, retourné, renversé sur eux la montagne comme un bâté. La Gemara continue. The Omar, il leur a dit, Im Atem, me kabelin, es a Torah Mutov, si vous, me kabelin, kabel, acceptez, recevoir, si vous acceptez la Torah, bien, Im Lov, Shom, Sehe, Tevurafrem. Sinon, là sera votre tombeau. Tevura, c'est la radice des racines, ça va en terre. Je répète, Vaïslat Sevu de Sarsi Torah, il se tient debout au pied de la montagne. La Gemara, le Talmud aussi, qui est un premier enseignement, donc, de Abdini, qui dit, me la met, l'enseigne, chez Kofo, Aleyem, à Kodosh Boruchu, et Soror que dit. Cela enseigne que le Saint béni, il est, a retourné sur eux la montagne comme un bateau, comme ici. Omar, l'Ahem, et il leur a dit, il m'appelle le Tablim à Torah Moutov, si vous acceptez la Torah, bien, il me l'ose, sinon, Shom, là, ce Hé que vous rassurez sera votre tombeau. Alors, la Gemara continue, avec un enseignement, la Nôtre Rav qui intervient, Omar, Rav Afro Bar Yaakov. Rav Afro, fils de Yaakov, a dit, Nikon, Modo, Rabo, Loraïso. De ceci, il en résulte une grande protestation de la Torah. Là, vous avez deux mots araméens. Modo, le même mot que Moda en hébreu, c'est une déclaration, c'est une protestation qu'on fait devant témoin pour dire non, ceci j'ai reçu de force, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une décision libre, c'est qu'on pourrait presque dire à lui une contestation, une protestation. Le Raïssa vis-à-vis de la Torah. Je continue. Troisième enseignement. Omar Rovo. Rovo a dit. Afalki Ken. Même si on est ainsi. Hadur Kabluo Dime Arashtehu. Hadur, c'est de l'araméen, c'est comme hasard. Ça veut dire, il y a deux sens possibles. Ça veut dire le sens de revenir, retourner. Donc, soit rétracter, se repentir, soit le sens de revenir, c'est-à-dire revenir à nouveau, recommencer. Alors, Omar Rovo, a parlé du Kay, même si c'est ainsi, Hadur Kabluo, Dime Arashtehu. Ils l'ont réaccepté, disons provisoirement. Donc, quand la vie m'a accepté, nous verrons laquelle des deux lectures est la bonne, à l'époque d'Assyrie. Dirsil, comme il est écrit, une citation d'un verset d'Esther, chapitre 9, verset 27, Kimu le Kiblu Hayoudim. Les Juifs ont accompli, Kiyem, Yalikoum, établir, accepter, etc., accompli, Kimu le Kiblu. Ils ont accompli et ils ont accepté. Et la Gemara continue en expliquant ce que ça veut dire, c'est une citation de Rabo, Kimou, marche et Kiboukfor. Ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté auparavant. Ça va, ça présent ? Pas de problème dans la lecture, je veux dire dans les mots. Je continue. Alors, à ce moment-là, il y a une intervention d'un autre, la Gemara continue. Omar Hiskio. Alors, Hiskio intervient. Maïdursi. Que signifie ce qui est écrit? C'est un verset des psaumes, du psaume 76, verset 9. Maï, Yersi, c'est signifie ce qui est écrit, Mishomai, Mishmato, Di, Eret, Yoro, le Shokoto. Depuis les cieux, tu as fait entendre la loi, la terre a été effrayée, et elle a été transmise. Mishomai, Mishmato, Di, depuis les cieux, tu as fait entendre digne jugement. Eret Yoro de Shokoto, la terre a été effrayée et elle a été calmée. In Yoro, l'homme Shokoto. Si elle a été effrayée, pourquoi elle a été tranquille? De In Shokoto, l'homme Yoro. Et si elle a été tranquille, pourquoi elle a été effrayée? Et là, chez Batrilo, Yoro, ou le Batsof, Sorto. Mais il faut comprendre qu'au commencement, elle a été effrayée, et à la fin, elle a été tranquille. Alors là, je me continue. Le Lomo, Yoro, et pourquoi elle a été effrayée, qui est de Reish Lakish. Ceci est conforme à l'enseignement de Reish Lakish. De Omar Reish Lakish, car Reish Lakish a dit, Maïdirti, que signifie ce qui est écrit? Vaïdi Erez, Vaïdi Voiker, Yoï Ha, ici. Et ici, soir, ici, matin, jour le sixième. Hei, Yoseiro, Lomoli. Ce Hei supplémentaire, donc le sixième, c'est ce que j'en ai besoin. Me l'amène, il enseigne, c'est supplémentaire, chez Disno, Hakodosh Boruchu, Imase Berich. Il enseigne que le Saint Béni a stipulé, Isno, c'est un disciple du verbe Tono, a stipulé, avec l'œuvre du commencement, Imase Berich, que Omar Lohem, et il leur a dit, pour Imase Berich, l'œuvre du commencement, in Israël, ne kablir ha Toira, Israël accepte la Toira, atem istaïm, vous subissez. Le Imlov, et sinon, Animar vir Ephraim, le sauve au beau. Et sinon, je vous ramène au Tohu et au Bohu. C'est-à-dire que le Bohu, c'est le stade c'est le stade de début de chaos de la Samanatasse. Voici ce texte, pour le moins curieux, la façon dont, dans le Talmud, lit ces trois versets de la Torah. Est-ce qu'il est nécessaire de relire? Ou est-ce que pour les termes ça va? Ou est-ce que vous voulez qu'on relise encore une fois? Pas de problème. Bon. Alors, on va relire. Alors, on va relire. Va ici à vous le Sartisoran. Et il se tient debout dans le dessous de la montagne. On a Ravadini Bachomo Bachoso. Ravadini, fils de Homo, fils de Hoso, a dit. Me lamet. Cela enseigne que le Saint béni a retourné sur eux la montagne comme une cuve, comme un baquet, Omar Lohem, et il leur a dit, Imachem Kabli Ma Torah Moussav, si vous acceptez la Torah, bien, Imlov, et sinon, chantez que vous rassrem. Là sera votre tombeau. Omar Rav Acho Bar Yaakov. Alors, Acho Bar Yaakov a dit, une femme de cette situation, Mordor Rabo Loraïto, il découle une grande protestation vis-à-vis de la Torah. Omar Rovo, Rovo a dit, Afalpikein, même si c'est ainsi, Hadur Kabluo Vimea Hashéosh, ils l'ont réaccepté, ou ils ont envie d'avis l'accepter, on ne sait pas encore, à l'époque d'Assyrie. Dirsif, comme il est écrit, dans le Esther, Kivu the Kiblu Hayahudim. Les Juifs ont accompli et ont accepté. Kimu, Mach et Kiblu Kfar. Ils ont accompli et ils avaient accepté auparavant. Omar Hiskio. Hiskio dit Maïdirti. Que signifie ce qui est écrit dans les psaumes, chapitre 76, verset 9, Nishomayim, Nishmato Din, Eret. Yoro le Chocoto. Depuis les cieux, tu as fait entendre le jugement, la terre a été effrayée et a été calmée. Im Yoro le Moshokto. Im Shokto le Moyoro. S'il a été effrayé, pourquoi il a été calmé? Et s'il a été calmé, pourquoi il a été effrayé? Et là, ça veut dire que, Patrilo Yoro, ou le Bassof Shokto. Au commencement, il a eu peur, et la fin, il a été tranquille. Le Lomo Yoro. Et pourquoi c'est du peur? Qui de réflatif? Ça, ça va très bien avec l'enseignement de réflatif. Dans ma réflatif, la tâche est enseignée. Maïdirti, c'est signifié, c'est qui est écrit dans le dernier verset, le verset 31 du chapitre 1 de Bereshit, à la fin des six jours de la création, où chaque jour se termine par Bayer et Maïvoker, l'histoire du matin, Yom Echol jour 1, Yom Sheini jour 2, Yom Shishi jour 3, Yom Revi jour 4, Yom Khamis jour 5, et ici, c'est différent. Il y a un ré devant. Alors, Maïrti, c'est signifie ce qui est écrit, Maïr, Evaï, Boker, Yom, Hashishi. C'est signifie ce qui est écrit, qu'il soit du matin, jour, le sixième. He, de Seiro, l'homoli. Le he supplémentaire de ce que l'on ait besoin. Mais la messe, il enseigne ce he. C'est Visno, Akodosh Borokhu, Im, Maase, Verich. C'est le simple. Le miné a fait une stipulation avec l'œuvre du commencement. Omar Lohem, elle leur a dit, Israël, le Kabbalim, Torah. Atem Iskayim. Israël accepte la Torah, vous subsistez. Et sinon, Animat Direction de Tobago. Et sinon, je vous ramène au Tobago. Ça va? Alors maintenant, avant de voir un peu les problèmes, il faut quand même essayer de nous aider un petit peu, au moins avec un chiffre. Alors, pour ceux qui ont le texte normal, j'ai souligné. Rachid, donc, la page de droite, vous savez, dans la Gemara, normalement, il y a maintenant une édition universelle du Talmud dans tous les pays du monde, on s'est édité comme ça. Rachid sera à l'intérieur de la page. En fait, si vous lisez la page, Rachid sera parfois à l'intérieur, et sauf sa faute à l'extérieur. Par contre, pour ceux qui ont la Gemara ponctuée de Sainte-Zal, alors il a mis Rachid où il a pu, et vous le trouvez sur la page de gauche, et sauf ce qu'il a pu, c'est évidemment la page de gauche en bas, parce que à droite, il a mis une traduction. En hébreu moderne de la Gemara. Alors donc, nous allons quand même essayer, nous allons relire cette fois-ci notre Gemara et nous arrêter avec à voir comment Rashi au moins explique ce qu'il estime devoir expliquer. Alors nous reprenons. Vaishyasthavu est parti dehors. Et ils se tinrent debout dans le de la montagne. Rachid. Parti dehors. Rachid dit là, vous avez Rachid. Tacha sehor mamash. Sous la montagne, vraiment. Ça veut dire, Rachid nous dit bien, il ne s'agit pas d'une marche poétique, il n'était pas au pied de la montagne, il était tacha sehor mamash. Il était vraiment sous la montagne. Il était en dessous. Alors, nous relisons, n'est-ce pas toujours. Alors, Omar, Rav, Abdini, Barthomobarfosso, Rav, Abdini, qui grand, je reçois, a dit, me lamet, chez Tofo, à cause de ce bon voilé, à l'instant du Dix, cela enseigne que Dieu a retourné sur la montagne que Dix, c'est traduit par Baké, Rachid, c'est Dix. Dix, Kouva, chez Matini, Bochechor. Kouva, c'est une cuve, il y a un autre endroit dans la Gemara de Avodah Zarah où ce texte est repris dans d'autres contextes, Rachid dit Koufa avec un P de lave. Koufa en français, c'est une cuve dans laquelle on verse une boisson alcoolique. C'est une cuve dans laquelle on verse. C'est la définition de Guy. Omar Lohen, et il leur a dit, nous redisons toujours, il m'attend pour retrouver Rachid chaque fois qu'il parle, il m'attend Omar Lohen, il m'attend le Kamé à Torah, si vous prenez un Torah Moutav bien, le Imlav et sinon, chantez-vous. Chantez-vous que vous rafraîchissez, là sera votre tombeau. Alors, intervient donc Rav Acha Bar Yaakov, et Rav Acha, qu'est-ce qu'il dit, mais quand Modo a rabot le Raïfa. De là, une grande protestation de la Torah. Protestation, ce mot, Moda, évidemment, il est difficile. En quoi consiste protestation? Alors, Rachid, là, il explique, sans l'expliquer très clairement, il faut essayer de lire Rachid comme il est écrit. Que dit Rachid? Modo a rabot. Que, chez Yazinom, le din, que si Dieu les cite en justice, le convoque en justice, Yazinom le din, Lama, de quoi vous les guillemets, Lama, lo kiyamtem, ma siki baltem alechem, en leur disant, pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez accepté sur vous, yesh lohem tshuva, ils ont une possibilité de répondre, chez kibluho de oinem, qu'ils l'ont reçu sous la contrainte, c'est ça. Donc, dans une première lecture de Rachid, Rachid semble dire, qu'est-ce que ça veut dire, il y a une protestation de la Torah. C'est-à-dire, si Dieu les cite en justice, ils pourront répondre, nous protestons, nous l'avons reçu. Pourquoi n'avons-nous pas accompli la Torah? Parce que nous l'avons reçu de force. Alors, je pense qu'on a le Mara. Omar Rovo, a falsifié, même si c'est ainsi, il y a cette moda, cette contestation possible. Hadour, Chablou, Bimer, Hachveroch. Ils l'ont réaccepté, le pauvre de la Syrie. Dire-t-il, comme il est écrit, Timo, de Kiblo, Ayurim. Alors, Bimea Hachveros, une enseignante de la Syrie, que dit Rachid? Rachid dit, Bimea Hachveros, vous m'arrêtez si je saute à Rachid, hein, je viens d'oublier, Bimea Hachveros, Mea Havas Hanet, Shenaso Lohem, par l'amour, à cause de l'amour du miracle qu'il aura été fait. Pourquoi on a accepté l'époque d'Assyrus? C'est ça pourquoi Assyrus? Par l'amour du miracle qu'il aura été fait à cette époque. Alors, la Gemara continue. Dire-t-il, comme il est écrit, qui mourait qui voulait Oudim, les Juifs ont accompli, ils ont accepté, qui mourait marche et qui voulait croire. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté auparavant. Alors, à ce moment-là, intervient Sio, et qui dit, mais dire-t-il, c'est qui nous chama, il se mate au Dim. Depuis les cieux, qui a fait entendre le jugement. Et là, c'est Dim, Poyro. C'est-à-dire, du ciel qui a fait entendre la Torah, la terre a tremblé et elle s'est calmée. Im, yorolam shokto. Le im shokto, le mot yorom. Et là, mais batrilo, au commencement, batrilo yorom. Batrilo, l'irachi. Batrilo, kodem, chez omru, yitroel, nase venishmo. C'est au commencement la tremblée, au commencement, avant qu'Israël ne dise nase venishmo. Cette phrase, on va la retrouver tout le temps. Avant qu'Israël ne dise, nous ferons et nous écouterons. Avant cela, la terre a tremblé. Alors, par Trilo, Yoro. Avant cela, avant que Lille n'appelle le chemin, Yoro, elle a tremblé d'Hirachim, Shemo, l'eau, Yekabluo, de peur que Israël ne l'accepte pas la Torah, Zahoroïlav, le sauve Vohou, qui dirait la fille, et que la terre de ce fait ne retourne au Tour Vohou, selon l'enseignement de Réclatif. Oulbassos, et à la fin, Sorto. Oulbassos, Hirachim, que chez Joua. Lorsqu'ils l'ont accepté, alors, elle a été tranquille. Il nous reste à voir deux rachis, je crois. Donc, l'enseignement de Reish Lakish, lorsqu'il est écrit « Vayera Vayivo Kagam Hashishi », il fut soir, il fut matin, jour le sixième, « Yom Ha Shishi, Hey Yesera Lomoli, pourquoi j'ai besoin d'un rythme mentaire ?» Alors, Rashi dit « Hey Yesera Lomoli, Mai Sheno, Dirsi, hey, Beudemar, Massebrefi, je crois, attendez, que je me reporte à mon texte. C'est un Maïchnol, Dirsi, hey, Beudemar, Massebrefi. Pourquoi y a-t-il une différence? Et qu'il est écrit un hey au jour qui termine l'œuvre du commencement. Enfin, dernier passage, lorsqu'on nous apprend que ce hey, supplémentaire, mais l'Amed enseigne chez Jusqu'en Colvorou que Dieu a fait une stipulation, a stipulé avec l'œuvre du commencement. Alors, Rachid explique, mais l'Amed chez Jusqu'en, il a enseigné qu'il a stipulé Hashishi, Mashma, Hashishi, Hameyucha, Mokom Acher. Quand on dit Ha, le sixième, quand on précise le, ça veut dire le sixième qui est précisé dans un autre endroit. Le sixième. Que de Amrinon, de Almo, comme nous disons en général, une citation de Nimar de Khoulin, où il y a une discussion là-bas, lorsqu'on dit que Jacob a été blessé au cap à Yerer, à la hanche, et on se demande si c'est la hanche droite, la hanche gauche, etc. Alors le texte porte Hayerer, la hanche, en précision, donc c'est marqué Hayerer, la hanche, c'est Hayerer Hameyoumenet, c'est-à-dire là, de façon précise, la droite, de façon explicite. Askan, ici également, Vahere, Vahivoyter, et ce soir, et ce matin, celle de Mar de Réchi, de la fin de l'œuvre du commencement, Touloui dépend de Yom Hashishi. Il faut dire, Bayer Réveille Voltaire, et ce soir matin, tout ça, ça dépend de Yom Hashishi, du jour sixième. Le vous est le jour sixième, Shishi de Sivan, Shisho de Sivan. C'est le 6 du mois de Sivan, chez Nitsno Bo Toiro. Jour au cours duquel la Torah a été donné. Miriboui de He, Drish, de Namiro. Du fait qu'il y a une addition à He de plus, eh bien, il enseigne ici également la même façon. Voilà, si vous voulez, dans une première lecture. Donc, j'espère que, du point de vue de la langue, en tout cas, s'il y a des problèmes, dites-le-moi, s'il y a des questions, à partir de là, je voudrais maintenant que nous établissions la parole, nous essayons ensemble de voir comment nous pouvons comprendre ce que nous pouvons.